Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous et avec toute la rédaction. Ce soir à la une, la France malade. Dans notre pays, plus de 13 millions de personnes souffrent de troubles psy. Seuls 4,5 millions sont soignés. Les assises de la santé mentale s'ouvrent. Emmanuel Macron doit dévoiler des annonces historiques, nous dit-on demain. En attendant, les médecins alertent. Manque d'effectifs, manque de place, la rue remplie. Place souvent l'hôpital. Antoine Pellissolo, l'une des grandes voix de la psychiatrie, sera notre invité à 18h15. Et puis, autre symbole de ces failles, la crise du crack, encore et toujours à Paris. Le premier adjoint à la mairie échangera avec nous dans quelques instants. Les autres titres de l'actualité, maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. C'est une facture qui va finir par peser bien lourd dans le budget des ménages, celle de l'énergie. Il faudra compter 200 à 300 euros de plus à la fin de l'année. Le mois prochain encore, le prix du gaz va augmenter de plus de 12%. Dans ce journal aussi, le pari du tri et du recyclage face aux pénuries mondiales de matériaux et des égos qui s'entrechoquent au PSG samedi. Kylian Mbappé en avait après Neymar. Faut-il s'inquiéter à la veille du match de Ligue des Champions contre Manchester City? On verra ça. Les courses dans le Quintet Plus. Aujourd'hui, le prix de la mairie de Mocanchy, il fallait jouer le 12, le 4, le 11, le 2 et le 15.
Dans une demi-heure, dans les dessous de l'actu, pénurie d'essence, rayon des supermarchés dégarnis outre-Manche, les Britanniques regrette-t-il le Brexit? À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière avec la BD RTL du mois, une invitation au voyage à Madagascar. À 18h40, on va défaire le monde. Vos 20 minutes d'actu autrement avec Cyprien Signé et la fine équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le programme.
Ce soir, podium, strass et paillettes. Vous découvrirez que la Fashion Week, la fameuse semaine de la mode, eh ben c'est pas que pour les Kardashians, ça vous concerne aussi vous directement. Et puis on vous racontera l'histoire extraordinaire d'une montre RTL perdue depuis 42 ans.
42 ans, à 19h15, débat, prise de position, on va refaire le monde avec Éric Brunet, crack et élection en Allemagne au programme. Tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance?
Un temps plus calme et sec demain sur la majeure partie du pays.
On détaille tout ça dans quelques minutes.
RTL Soir,
le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et donc cette hausse spectaculaire, depuis le début de l'année, les prix du gaz ont augmenté de 57% et le mois prochain encore, se chauffer et cuisiner coûtera un peu plus cher.
Avec cette augmentation encore jamais vue en un mois, plus 12,6%. Bonsoir Marie Garrier.
Bonsoir.
Mais ça représente combien en plus en moyenne sur une facture?
Alors ça dépend si vous utilisez le gaz juste pour la cuisson ou bien en double usage, cuisson et eau chaude, ou encore si votre mode de chauffage est le gaz. Parce que là, évidemment, sur les mois d'hiver, ça va devenir vraiment sensible. L'association de consommateurs CLCV a calculé que la hausse moyenne de la facture d'énergie, gaz, électricité serait de 200 à 300 euros sur un an en fonction des consommations.
Mais cette hausse, elle concerne qui?
Eh bien, environ 3 millions de particuliers, essentiellement clients d'Engie, qui ont souscrit un contrat au gaz au tarif réglementé. En revanche, les consommateurs qui ont des contrats à prix fixe sur plusieurs années ne sont pas concernés par ces hausses de mois en mois. Et si vous avez un contrat à prix fixe, c'est vraiment pas le moment de le changer.
À chaque mois, son augmentation. Pour quelles raisons les prix du gaz progressent autant et aussi vite?
La demande sur les marchés mondiaux est très importante sous l'effet de la relance économique. Une reprise très forte en Asie notamment, et là l'Asie particulièrement gourmande en gaz. Mais l'offre, elle stagne. La Russie et la Norvège, pays producteurs, ne parviennent pas à augmenter leurs livraisons. Et ce mécanisme d'offre insuffisante et de demande croissante fait monter les prix.
Alors face à cette hausse, face à ces hausses successives, Marie, il y a une dizaine de jours, le gouvernement a annoncé une rallonge du chèque énergie. Est-ce que d'autres actions sont envisagées pour préserver le pouvoir d'achat des ménages?
Pas pour l'instant. La rallonge de 100 euros du chèque énergie va concerner courant décembre près de 6 millions de ménages modestes, qu'ils se chauffent au gaz, à l'électricité ou au fioul. Alors de leur côté, les associations de consommateurs plaident, elles, pour une baisse de la TVA.
Les explications de Marie Garrier pour RTL.
Sur le pouvoir d'achat, ce coup de pouce annoncé par Emmanuel Macron pour le secteur de la restauration. Les pourboires versés en carte bleue ne seront pas soumis à l'impôt pour les salariés et aux charges pour les patrons. L'enjeu est aussi d'attirer des candidatures vers cette filière où plus de 100 000 emplois sont à pourvoir.
Et au-delà de cette annonce depuis le Salon international de la restauration, c'est aussi une image qui va rester. Vincent Derosier, vous suivez le chef de l'État pour RTL. Au cours de sa visite, Emmanuel Macron a été la cible d'un jet d'œuf.
Oui, une visite presque parfaite. 2 heures de sourires, d'échanges aimables, de selfies et de dégustations à tous les stands. Et puis d'un seul coup, l'ambiance se tend. Un œuf est lancé. il ricoche sur l'épaule du président. L'œuf s'écrase finalement sur le sol. Le jeune homme en bermuda et polo est immédiatement interpellé. Il est menotté, puis emmené dans une autre pièce par la sécurité du chef de l'État. Emmanuel Macron, lui, n'a même pas compris ce qui s'était passé.
Je sais pas, c'était une prune ou
un bout de papier.
Je ne sais pas d'où ça vient. S'il a un truc à me dire, qu'il vienne me le dire. Non, mais s'il a quelque chose à dire,
le président.
Bah oui, qu'il vienne.
On peut faire une photo.
Qu'il vienne me voir. J'irai le voir après.
Les minutes passent, Emmanuel Macron poursuit sa visite et l'explication avec le jeune homme n'a finalement pas eu lieu.
Vincent de Rosier à Lyon pour RTL et l'auteur du lancer d'œuf a été placé en garde à vue. Il est âgé de 19 ans. Lui veut donner l'exemple quelques jours après l'autorisation d'une dose de rappel aux États-Unis. Joe Biden va recevoir sa troisième injection. Ce sera aujourd'hui, annonce la Maison Blanche.
L'impossible prise en charge des consommateurs de crack à Paris, déplacé une nouvelle fois de quelques centaines de mètres vendredi et désormais installé aux portes de la Seine-Saint-Denis, leur présence continue de poser problème.
Ce matin sur RTL, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a promis des réponses à long terme dans les prochains jours après avoir qualifié de solution d'urgence la construction de ce mur pour éviter le passage des drogués vers la Seine-Saint-Denis.
C'est une solution forcément transitoire, ça ne peut satisfaire personne.
Le mur de la honte, disent les
habitants. Il y a deux problèmes. L'addiction au crack est tellement forte que vous avez des gens qui sont en danger de mort. Puis vous avez toutes les nuisances pour le voisinage. Il faut répondre pour le moment dans l'urgence, et moi j'y répondrai de façon plus précise dans les jours qui viennent.
Emmanuel Grégoire, vous êtes l'invité maintenant de ce journal. Vous êtes le premier adjoint à la maire de Paris. Bonsoir.
Bonjour.
Vous êtes le premier adjoint à la maire de Paris. Le garde des Sceaux, ce matin, sur RTL, s'est donc saisi du dossier. Ça peut paraître surprenant. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Parce que si c'est le ministre de la Justice qui prend la main, est-ce que l'option de soins sous contrainte est sur la table? Est-ce que vous la validez?
Alors, d'abord, l'injonction de soins, comme on dit, est un des éléments de l'arsenal qui permet de résoudre ce problème. Mais il n'est pas suffisant. Et donc, en réalité, c'est beaucoup d'acteurs publics qui doivent se mobiliser. Ce que nous demandons, c'est qu'en réalité, tous les acteurs se mettent autour de la table. C'est une excellente nouvelle si l'État s'en saisit et le propose. Nous, la ville, nous avons fait des propositions précises. La maire a proposé un dispositif. Le Premier ministre l'a validé. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut vraiment sortir de cette logique historique qui a été juste de déplacer de point en point ces consommateurs de drogue avec toutes les nuisances qui vont avec.
Donc, déplacer, en finir avec les déplacements successifs, ça veut dire trouver des lieux d'hébergement, des salles d'accompagnement pour la consommation de ces toxicomanes?
Tout à fait. Il faut commencer d'abord par le cœur du problème. Ce n'est ni la consommation ni la répression. Le cœur du problème, compte tenu de l'état extrêmement dégradé de ces consommateurs, c'est de les accompagner individuellement avec une prise en charge médico-sociale. C'est à la fois l'accompagnement vers le sevrage, l'accompagnement psychologique et, je l'ai dit, psychiatrique de certains de ces usagers qui sont particulièrement dégradés. C'est la question, vous l'avez évoqué, de l'hébergement. Il faut pouvoir les mettre en intérieur. Il faut de petites structures avec des gros moyens impliquant l'ensemble des partenaires qui ont un rôle à y jouer. Nous sommes convaincus d'avoir la solution, pas miracle, parce qu'il n'y en a pas de miracle, il faut être honnête, mais d'accompagnement très individualisé pour faire en sorte de sortir de ce sujet qui est en gros les laisser faire n'importe quoi dans la rue et de temps en temps les chasser juste ailleurs.
Et en attendant, il se passe quoi pour les riverains du nord de Paris, pour les consommateurs de crack?
Alors, nous avons regretté qu'il y ait une éviction un peu sèche, c'est-à-dire uniquement sécuritaire de la Seine rue Riquet. En même temps, c'était nécessaire de le faire. On aurait pu sans doute mieux la préparer collectivement pour éviter de le reproduire porte de la Villette. Maintenant, porte de la Villette, nous demandons des garanties à deux niveaux. La première, c'est que la police se mette en situation d'éviter les nuisances de proximité. Et deuxièmement, et c'est le plus important, c'est qu'on mette en place le dispositif d'accompagnement de ce réseau de salles.
Au plus vite.
Et on va le faire tous ensemble. Et c'est parce qu'on se met tous ensemble pour le faire que nous allons avoir des résultats probants, j'en suis convaincu, dans les semaines et mois qui viennent.
Juste pour terminer, pour revenir sur cette évacuation, vous dites qu'on aurait pu mieux faire collectivement. C'est vrai qu'on a vu ce mur être construit pour empêcher les toxicomanes de passer en Seine-Saint-Denis, eux qui ont été évacués tout au nord de la capitale. On avait le maire de Pantin en ligne avec nous à la mi-journée sur RTL, très en colère. Immédiatement, un graffiti mur de la honte est venu le recouvrir. C'est un mur de la honte? Ce n'était pas le bon symbole?
Non, c'est quand vous érigez des murs pour protéger les citoyens, c'est incontestablement que vous avez raté quelque chose. Alors moi, je ne veux pas accabler qui que ce soit là-dedans. C'était, je le répète, une mauvaise décision maintenant. Le rôle des pouvoirs publics, et la ville, je le mets parmi eux, c'est de s'organiser très vite pour libérer le square Forceval, hein, ce petit square qui, de fait, est sacrifié comme nouvelle scène de consommation, pour faire en sorte que ce ne soit pas une nuisance durable pour les riverains. Oui, quand on est obligé de construire des murs, c'est incontestablement un échec pour nous tous.
Merci Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL.
Merci à vous.
Elle avait été brûlée vive par son mari en mai dernier à Mérignac. La mort de Chahinez pourrait donner lieu à des sanctions à l'encontre de 4 policiers. Un rapport de l'IGPN rendu aujourd'hui confirme en effet des fautes ou des erreurs d'appréciation de la part de ses agents.
Et votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec une raison supplémentaire. Tiens, de faire du tri ou quand le recyclage pourrait permettre de faire face à certaines pénuries de matériaux. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir.
Allez, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur RTL, 18h, 12 minutes, la suite de votre journal. On en vient à ces chantiers retardés, voire à l'arrêt, faute de PVC, de bois, d'alu. On vous en parlait ce matin sur RTL. Grosse difficulté dans le secteur de la construction face aux pénuries de matériaux à cause de la forte demande mondiale. L'alternative pourrait bien venir de nos poubelles.
Oui, en tout cas de nos poubelles de tri. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
La filière du recyclage se pose effectivement en alternative.
Oui, car quand les entreprises manquent d'aluminium, eh bien elles ont nos canettes. Quand elles manquent de plastique, elles ont nos bouteilles d'eau. À condition évidemment qu'on les trie à la maison ou dans les entreprises. Le gisement de matière est énorme. Prenons l'exemple du carton. La filière la plus avancée dans le recyclage, eh bien 90% du carton aujourd'hui qu'on utilise tous les jours est du carton recyclé. François Excoffier préside FEDEREC, la Fédération des entreprises du recyclage.
Plus on recyclera, moins on aura besoin de puiser dans la matière première. Un ustensile ménager qui est créé plutôt que de racheter et puiser dans le pétrole et autres, on recycle le plastique, on recycle le cuivre, on recycle le métal et on repart dans le circuit. La crise a dopé le recyclage et a dopé le cours des matières. C'est beaucoup plus intéressant quand un produit vaut 500 euros que quand un produit vaut 50 euros.
Exemple, aujourd'hui, le prix du PET, hein, c'est le plastique des bouteilles d'eau. Eh bien, le PET issu du recyclage se vend 30% plus cher que celui fait avec du pétrole. Les matières issues du recyclage peuvent devenir très rentables. Incontestablement, la pénurie créée après le Covid aura accéléré le développement du secteur.
Et nos poubelles sont aussi une ressource. Merci Virginie Garin. Un match capital et une préparation pas vraiment sereine. Demain, le PSG dispute son deuxième match de poule de la Ligue des Champions. Ce sera au Parc des Princes contre Manchester City.
Ouais, sacrée affiche, le PSG qui l'a certes emporté ce week-end face à Montpellier, mais bien plus que la victoire, une image a marqué, celle de Kylian Mbappé pestant après Neymar sur le banc. Philippe s'enfourche. Est-ce qu'il y a des tensions entre les deux hommes? Qu'est-ce
qui
se passe?
On pourrait le croire si on s'en tient en effet aux mots déchiffrés sur les lèvres de Kylian Mbappé juste après son remplacement face à Montpellier. Ce clochard, il ne me fait pas la passe en désignant Neymar.
Pas très gentil.
Un simple signe de frustration passagère, rien de plus, nous assure leur coéquipier Underer.
Depuis le premier jour où je suis arrivé, j'ai tout de suite senti qu'il y avait une relation forte, spéciale entre eux. Et rien n'a changé. Dans chaque match, il y a des situations où on se plaint des autres joueurs, mais après ça, on redevient amis. Évidemment, si c'est moi qui est indifférent avec Paredes, personne ne va le relever. C'est le foot. Ils en rient à cette heure.
Alors même anodin, cet épisode fait suite, on s'en souvient, à celui de Messi il y a une semaine, irrité par son remplacement face à Lyon. Chaque geste, chaque attitude cette saison sera décryptée, interprétée. C'est le propre des vestiaires aux égos surdimensionnés. Alors tant que les résultats sont là, aucun problème. En revanche, si ça commence à dérailler, chaque étincelle mettra inévitablement le feu aux poudres.
Et raison de plus de suivre ce match demain du PSG face à Manchester City.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Pour une commune du Nord, Caudry, près de 15 000 habitants qui viennent recevoir une jolie surprise. Le legs d'un appartement à Monaco estimé à 7,5 millions d'euros. De quoi devoir venir pour le maire de la ville, Frédéric Brigou.
Ça fait une bonne partie de notre budget, hein. Ça fait le quart de notre budget, quelque chose de très important pour notre commune. C'était un vrai caudrésien, la famille Sandra est une famille connue de Caudry. C'était donc un monsieur qui était très engagé dans le football, il a eu une carrière de styliste avec son épouse, leurs talents ont été très vite reconnus.
Des gens qui avaient les moyens mais qui étaient généreux en fait.
Des gens au grand cœur, des gens du Nord. Donc cet appartement, on va très certainement le vendre pour ensuite récupérer les fonds et respecter les souhaits de monsieur Sandra. Il avait décidé, donc je vous dis, de faire un tournoi de football avec les quatre plus grosses équipes du district Esco et puis investir dans une maison de santé, voire un hôpital.
Voilà, apparemment à Caudry, il pleut, mais le maire a le sourire au micro RTL de Franck Hanson.
Merci Marion, à tout à l'heure. Bon, il pleut à Caudry, est-ce qu'il pleuvra également demain?
Alors demain, oui, mais uniquement entre la Bretagne et les côtes de la Manche et uniquement l'après-midi, parce qu'ailleurs, c'est un temps sec et plutôt lumineux même. Après dissipation de quelques grisailles, on va retrouver de belles éclaircies, même si c'est vrai, les nuages seront un peu plus nombreux sur la façade est et la façade atlantique l'après-midi. Les températures, elles seront en baisse le matin, souvent en dessous des 10 degrés sur la partie nord, et baisse également pour les maximales. 18 à Cherbourg, 19 à Lille et Mulhouse, 20 degrés à Paris, 22 à Bordeaux et Biarritz, 25 à Nîmes et 27 à Toulon.
Merci beaucoup Peggy. Une petite pause et ensuite vous allez entendre le coup de gueule des médecins. Pourquoi ? Parce que s'ouvrent les assises de la santé et de la psychiatrie. Emmanuel Macron doit les clôturer avec des annonces demain, mais déjà les spécialistes donnent l'alerte puisque seuls 30% des personnes qui souffrent de troubles psy dans notre pays sont aujourd'hui prises en charge. Manque de place, manque de suivi, manque de personnel. On va échanger dans un instant avec l'une des grandes voix du secteur, Antoine Pellissolo. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL, 18h20. Et ce soir, nous voulions nous interroger. Est-ce que la France abandonne des malades? Dans notre pays, plus de 13 millions de personnes souffrent de troubles psy. Et le constat est choc, puisque seuls 4 500 000 de ces personnes sont aujourd'hui prises en charge. Les assises de la santé et de la psychiatrie viennent de s'ouvrir. Emmanuel Macron doit les clôturer demain. En attendant, les médecins appellent à l'aide face au manque de place, de suivi, de personnel. Bonsoir Antoine Pellissolo.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, chef de service à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Le gouvernement promet, je cite le ministère, un moment historique demain. C'est un terme qui est engageant. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a eu une prise de conscience au sommet de l'État du problème ?
Une prise de conscience, oui, je l'espère. Et la période qu'on a traversée avec la crise sanitaire a quand même permis de mettre l'accent sur ces difficultés qu'on a connues depuis des années. Donc il y a maintenant une prise de conscience du problème. La question, c'est est-ce qu'il y a une prise de conscience de la réponse qui doit être donnée? Et elle est assez gigantesque, la réponse à donner. Donc on va être vigilant sur ce qui va être proposé.
Ce matin, le baromètre de la dépression est tombé, avec là aussi un chiffre assez terrible. 30% des moins de 24 ans ont déjà pensé au suicide. Or, on sait que la capacité d'accueil à l'hôpital dans les services psy a chuté de 13% ces dernières années. Je voudrais vous faire écouter le témoignage d'un auditeur. Il s'appelle Pascal. Il est infirmier en HP dans le Gard. Il nous a appelé justement pour témoigner au 3210 sur RTL. Écoutez-le.
Le problème majeur, c'est vraiment un manque de personnel, que ça soit autant infirmiers, et il y a aussi de moins en moins de psychiatres. Malheureusement, maintenant, on a de plus en plus de personnes qui ont des troubles du comportement, une population de plus en plus jeune, avec la consommation de cannabis. Et le problème, c'est que comme il n'y a pas de place, et ben, c'est que l'hospitalisation est de plus en plus courte, et c'est des gens qui devraient être hospitalisés, mais qu'on lâche dans la nature, sans suivi.
On parlait de ces jeunes, Antoine Pellissolo. On est en train d'abandonner des gamins ?
On essaye de les accompagner au mieux, hein, ces jeunes. Mais évidemment, il n'y a pas que l'hospitalisation, hein, parce que l'on entendait, les solutions, elles sont multiples. Il faudrait pouvoir les écouter, les entendre, faire des diagnostics et les soigner correctement. Et en majorité, ce que disaient les personnes interrogées, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel. Je crois que vraiment, l'accent, il doit mettre sur la question du personnel. On sait que c'est compliqué de recruter des infirmiers, des médecins en ce moment, mais il faut tout faire pour qu'il y ait des postes, et après, que les postes soient attractif, et tout ça nécessite vraiment d'investir énormément, parce que c'est un travail difficile. Ce qu'il faut dire en plus, c'est que malheureusement, soigner des troubles mentaux, ça ne s'apprend pas en 15 jours, c'est coûteux en termes personnels d'investissement humain, et ça veut dire vraiment qu'il faut, construire une réforme un peu globale du système, parce que quand vous le dites, il y a beaucoup de personnes concernées dans des champs très différents, hein. Ça va des jeunes aux plus âgés, ça concerne des personnes de tout âge, et donc de toute conditions, et il faut des dispositifs un peu adaptés à chacune de ces situations.
Et vous confirmez une explosion des besoins depuis la crise sanitaire. 400 000 recherches de rendez-vous psy en septembre sur Doctolib, ils ont comparé avec il y a un an, c'est deux fois plus.
Oui, alors c'est parce que les Français vont mal, hein, on commence à sortir un peu la tête de l'eau, mais ça a été très dur pendant des mois. Le besoin existait avant, le fait qu'on en parle plus, et c'est bien, parce que nous, on dit partout qu'il faut mettre des moyens sur la santé mentale, mais ça donne quand même aussi l'idée à des gens de consulter, ce qui fait qu'il y a plus de consultants, qu'on dépiste sûrement un petit peu mieux, donc on a fait beaucoup de progrès, mais derrière, on n'arrive pas à suivre, parce que ça fait en effet un appel d'air assez important, et surtout avec des professionnels qui s'épuisent. Malheureusement, c'est ça le problème, c'est que comme ils ne sont pas assez nombreux et qu'ils ont une pression importante, ils ont tendance, au bout de quelques années, à se sentir vraiment fatigués, et surtout à renoncer, parce qu'ils n'ont pas l'impression de faire vraiment le travail qu'ils auront envie de faire.
Alors, vous dites qu'il faut du personnel, créer des postes, donc évidemment, il faut de l'argent. Mais est-ce qu'il y a aussi un problème de vocation, en quelque sorte? Parce que les jeunes médecins, comme chaque année, qui sortent de leurs études, ont dû choisir là leur formation, leur spécialité. On se rend compte qu'il y a 71 postes en psychiatrie qui n'ont pas trouvé preneur. Parce que c'est trop lourd à porter personnellement? Parce que ce n'est pas assez rémunéré?
Alors, c'est pas général. Il manque de toute façon des médecins en France, le numerus clausus, donc ça s'applique à toutes les spécialités. Par ailleurs, il y a des régions en France qui sont sinistrées au niveau de la psychiatrie. Les régions à petit peu près qui fonctionnent comme la région parisienne, on n'a aucun problème pour attirer des jeunes psychiatres. Donc, il faudrait d'ailleurs créer des postes supplémentaires. Et ça n'a pas été fait. Cette année, je crois qu'on a 2 internes en plus par rapport à d'habitude, ce qui est vraiment ridicule. On a des besoins qui vont croissant, puisque beaucoup de psychiatres partent à la retraite. Et puis, il y a quelques régions, effectivement, en France, parce qu'ils souffrent énormément. Il y a des services, vous avez peut-être entendu parler, qui ont dû fermer, parce qu'il n'y avait plus assez de personnel, plus assez de médecins. Évidemment, ce n'est pas attractif dans ces conditions-là. Personne ne veut travailler tout seul dans un hôpital qui est en déshérence. Donc, ce n'est pas un problème de vocation, c'est vraiment un problème de moyens qui sont vraiment que des moyens humains. Et ce n'est pas des petites choses. Hein. Je peux vous dire, l'estimation qu'on a fait avec des collègues, c'est à peu près 10 000 postes qu'il faudrait créer sur l'ensemble du territoire.
C'est considérable.
Parce que tous les départements sont concernés. Les annonces qu'on a eues, par exemple, du ministre tout à l'heure, des postes de psychologues, on a créé 160 avec les mesures du Ségur. 160. On a à peu près 800 CMP en France. Et c'est très faible. Moi, j'en ai pas vu la couleur, par exemple.
Vous avez peut-être entendu notre invité précédent, le premier adjoint à la maire de Paris, qui était il y a quelques minutes avec nous sur RTL, parce que la présence de dizaines de toxicomanes est un problème sans fin dans la capitale depuis des semaines. Écoutez ce témoignage justement d'un drogué rencontré là-bas, porte de la Villette, sur RTL ce matin.
On était à La Chapelle, après on est parti à Aubervilliers, après on est parti à Stalingrad, et maintenant on est là.
Comment? Vous aimeriez arrêter le crack?
Ouais, comment? Il n'y a personne qui nous aide.
Il n'y a personne qui nous aide. Ce dossier du crack à Paris, est-ce que c'est finalement la face visible des failles du système?
Oui, c'est la phase visible la plus dramatique, on peut dire, parce que c'est des souffrances énormes pour les personnes concernées elles-mêmes, et puis évidemment les riverains dans ce cas-là. Mais c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile à faire, hein, à soigner des gens qui sont dans la rue, qui sont en mauvais état de santé, en précarité sociale majeure. Bon, et il faut mettre encore plus de moyens pour cela, c'est sûr, mais c'est à peu près représentatif quand même de plein de situations en France où, de toute façon, on n'arrive pas à répondre à ces besoins-là. Et il faut écouter on travaille beaucoup avec les personnes concernées qui vous diront évidemment que pour avoir un rendez-vous, c'est très, très long. Pour avoir une place à l'hôpital, c'est très long. Et c'est là-dessus qu'il y a vraiment des failles.
Juste un dernier point. La France doit-elle aussi changer son regard sur les troubles psy? En Australie, par exemple, on apprend tout jeune à l'école ce que c'est la dépression, ce que c'est une addiction. Donc on apprend aussi à repérer ces mots, à en parler. Est-ce que c'est encore tabou dans notre pays?
Oui, c'est tabou, c'est caché, parce que ça fait peur, hein, évidemment. Et ce qui doit être fait aussi dans un plan national, c'est de faire effectivement de l'éducation à la santé mentale. Le modèle australien est très bon. En primaire, on apprend ce que c'est que la dépression, ce que c'est que l'anxiété. Mmh. Après, on apprend un peu plus de choses en avançant, comme on devrait connaître le diabète ou une autre maladie. Et c'est des maladies comme les autres, même si elle s'exprime quand même de manière particulière, et il faut faire tomber ces tabous et changer le regard. Mais malheureusement, ça ne suffit pas non plus. Hein. Il ne faut pas dire juste ça, parce que sinon, on fait des grandes campagnes de communication, mais derrière, on ne peut pas accueillir les gens qui arrivent et qui ont repéré des choses. Et c'est vraiment ça qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de demandes qu'avant, on n'a pas moins de personnel qu'avant, c'est simplement qu'on a encore plus de besoins qu'avant. Et notamment, il y a un dernier point qu'il faut soulever, c'est celui des places d'hébergement, pas à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital... Et on devrait moins soigner à l'hôpital qu'on ne fait aujourd'hui si on investissait sur l'ambulatoire, comme on dit, et surtout sur des places d'hébergement adaptées. Alors, l'exemple là, un peu dramatique des consommateurs de crack, mais aussi toutes les personnes souffrant de troubles mentaux ont besoin aussi d'être accompagnées dans leur vie quotidienne.
Merci Antoine Pellissolo, psychiatre, chef de service à l'hôpital de Créteil, d'avoir été notre invité ce soir sur RTL. On vous retrouvera en librairie d'ailleurs après-demain avec votre nouveau livre Les émotions du dérèglement climatique chez Flammarion. Merci. Une pause dans un instant sur RTL, dans les dessous de l'actu, on va vous emmener en Grande-Bretagne. Les stations essence sont à sec. Alors, est-ce que les sujets de la reine regrettent le Brexit? Réponse juste après ça, à tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier.
Bonne fin de journée, 18h31.
RTL Soir, avec Julien Cellier.
Et donc le grand rappel des grands titres de l'actualité avec vous Marion Calais.
Nous restons vigilants aux commentaires de l'entourage de la ministre de la Transition écologique sur la nouvelle hausse du prix du gaz annoncée pour le mois prochain, plus 12,6%. Une confirmation aujourd'hui, les tests de dépistage du Covid-19 ne seront plus gratuits au 15 octobre, sauf pour les mineurs, les personnes déjà vaccinées ou sur prescription. Et puis le phénomène est-il lié à la pandémie ou à la hausse des ventes d'armes à feu? Les explications divergent, mais le constat est là. Aux États-Unis, les homicides ont progressé de 30% en 2020, plus de 21 500 au total.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps maintenant, Peggy, dites-nous tout.
Retour d'un temps calme et sec sur la majeure partie du pays après dissipation des grisailles matinales, avec des éclaircies, sauf entre la Bretagne et les côtes de la Manche, où là, le temps va se gâter dans l'après-midi, retour des pluies et des nuages. Le tout sous des températures en baisse, de 18 à 20 au nord, 20 à 23 au sud, jusqu'à 27 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu, RTL vous emmène ce soir en Grande-Bretagne. Entre 50 et 90% des stations essence indépendantes ont été ou sont à sec. On a aussi vu des rayons de supermarchés dégarnis ces dernières semaines. Bonsoir Marie Billon.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondante à Londres. Alors évidemment, parce que nous sommes taquins, nous nous sommes demandé si nos voisins regrettaient déjà le Brexit. Vous vous êtes rendue dans ces fameuses stations essence vides à Londres, Marie, pour mener l'enquête. Rappelez-nous déjà, pourquoi un tel problème d'approvisionnement ?
Alors, c'est pas qu'on manque d'essence, hein, c'est qu'il n'y a personne pour emmener le carburant jusqu'aux stations-service. Enfin, bon, presque personne. Hein. On manque de chauffeurs, 100 000 même selon l'industrie, si on veut que le pays fonctionne à nouveau normalement. Et pourquoi ? Eh bien, c'est un mélange de Covid et de Brexit. Les Européens qui étaient nombreux dans ce secteur ont été beaucoup à rentrer dans leur pays d'origine. Certains dégoûtés par le Brexit et de l'ambiance générale, d'autres convaincus par le Covid et peu sont revenus. Beaucoup d'ailleurs ne peuvent plus revenir à cause des nouvelles règles d'immigration.
Et alors, est-ce que les pro-Brexit ont désormais des regrets ?
Alors, moi, je ne vois aucun signe de remords et j'ai pu parler notamment à Alec et Robert devant une station essence fermée.
Non. Carrément pas. Tout se passait bien avant. C'est à cause de la pandémie.
Ils disent qu'ils n'ont pas assez de chauffeurs, mais ils ont eu des années pour voir venir. Ils sont juste mal organisés. Ils n'ont qu'à les payer mieux, mais bon, ils ne vont sûrement pas faire ça. Ça montre qu'on n'a pas assez de bras pour faire le travail, mais ça n'est pas le Brexit, c'est juste l'avidité habituelle.
Alors disons que pour certains, ça n'est jamais la faute du Brexit, mais pour d'autres, par contre, c'est toujours la faute du Brexit, donc finalement, à la fin, bah, ça s'équilibre.
Bon, et dites-nous, ces files d'attente à la pompe, ça va durer ou est-ce que le gouvernement réagit ?
Alors l'industrie vient juste de dire que ça ira mieux dans quelques jours. Le gouvernement lui a annoncé 5000 visas court terme pour travailleurs étrangers et puis la suspension des règles de la concurrence entre les fournisseurs. Mais pour l'instant, Londres a refusé de faire appel aux soldats pour conduire les camions-citernes. Si les automobilistes arrêtaient de paniquer, il n'y aurait aucun souci, a dit un ministre.
Bon bah voilà, c'est toujours la faute des automobilistes en tout cas. Merci beaucoup Marie Billon. À Londres, dans les dessous de l'actu sur RTL ce soir.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
RTL 18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, changement de séquence, changement d'air, laissez-vous tenter, dernière. Vous connaissez le principe, les amis. Tous les soirs, la joyeuse bande de LVT vous donne ses conseils ciné, musique, bouquins. Pour occuper vos soirées, le lundi c'est très pratique, on peut se projeter sur la semaine. Bonsoir Monique Younes.
Bonsoir.
Et vous nous présentez ce soir la bande dessinée RTL de septembre. Elle a un titre qui fait rêver, qui invite au voyage alors que le temps automnal est de retour. Tannan arrive.
Oui, elle est imaginée par Marc Ekessol et dessinée par Sylvain Vallée. L'histoire de deux copains qui se retrouvent souvent le soir. L'un, Amédée, est un notaire à la retraite, rondouillard, souvent souffreteux, casanier comme pas deux. Et l'autre, Joe, c'est un vieux briscard. Joe possède l'art du récit d'aventure, comme légionnaire. À Dien Bien Phu, il a survécu grâce à une consommation d'opium effrénée. En mer Rouge, il a bravé les pirates, fréquenté des milliardaires. Un type passionnant, ce Joe est tellement sportif qu'il meurt d'un arrêt cardiaque en faisant ses pompes. Voilà donc le vieil Amédée au bord de sa triomphe orange pourrie à la recherche d'éventuels héritiers à son ami Joe.
Et donc il va aller jusqu'à Madagascar pour chercher cet ayant droit.
À Tananarive, vous croyez en l'occurrence Eh bien non. Eh bien non, Julien, car Amédée se rend compte au cours de ses recherches que son ami Joe l'aventurier n'est pas né à Tananarive, mais à Charleville.
Ah.
Qu'il n'a jamais été prospecteur en Amazonie, mais juste représentant un aspirateur à l'île. Il n'a jamais fichu les pieds au Vietnam. ne connaît rien de la mer Rouge. Il a passé sa vie entre Maubeuge, Bruges et Calais, un mytho total. Marc, et que Saul n'en a que plus de tendresse pour lui.
En fait, c'est l'ambiguïté des menteurs. C'est-à-dire qu'un menteur qui vous ment, mais vous ne savez pas qui ment, est-ce que c'est encore un menteur? Après, l'histoire est quand même un dialogue permanent entre le fantasme et la réalité. Et c'est tout l'apprentissage de notre héros Amédée. On est loin d'Indiana Jones, mais que d'un coup il se dit, c'est maintenant ou jamais.
Qu'est-ce qui se passe quand on se rend compte que l'être en qui vous avez le plus confiance vous a floué toute sa vie? Amédée transforme son road trip en une quête personnelle. Le dessinateur Sylvain Vallée met en scène à la perfection ce road trip poétique, drôle et plein de rebondissements. Tananarive, dessiné donc par Sylvain Vallée et écrit par Marc Ekesoul. Le voyage pour Tananarive, édité par Glénat, vous coûtera 19,50 € et il vous surprendra jusqu'à la dernière case.
Et c'est la bande dessinée RTL de septembre à déguster donc à l'approche de ces soirées raccourcies. On va profiter, on va se mettre près de la cheminée avec la BD RTL du mois. Merci beaucoup Monique Younes pour ce joli conseil. On vous retrouve demain 9h-9h30 comme tous les matins avec la bande de Laissez-vous tenter. À demain.
À demain.
Laissez-vous tenter. Dernière.
Et on marque une courte pause dans RTL Soir et dans un instant on va défaire le monde. 20 minutes d'actu plus inattendu avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
RTL Soir sur son 31. On va parler Fashion Week juste après ça. À tout de suite.
On défait le monde. C'est dans un instant sur RTL.